des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Vincent Dessoureau est là.
Salut.
Hey, est-ce que tu serais tenté de faire appel au service d'un coach de vie, toi, Vincent?
Peu de chance. Non, je suis pas très coach de vie. Peut-être parce que j'ai le bonheur facile. Peut-être que ça aide.
Est-ce que tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de se tourner vers cette solution-là parce qu'il n'y a pas de psy?
Mais j'ai déjà déjeuné à côté d'un coach de vie et son patient.
T'écoutais l'autre midi à la table d'à côté?
C'est sûr. Et ma foi, c'est sûr que c'était pas. Je pense pas que c'était un coach de vie qui était le finissant numéro un de sa classe. Là.
Il n'y a pas de classe de coach de vie. C'est l'école de la vie, Vincent.
C'est ça, c'est l'école de la vie. À l'école de la vie, il y a peut-être pas. Il était fini à 60.
Ouais,
il a passé juste à peine, mais dans les conseils, écoute, je me souviens plus des conseils exacts, mais tout le monde disait, là, où est-ce que c'est, madame, suivez pas ce que ce monsieur-là vous dit, et bon, je comprends qu'il y en a peut-être qui ont des bons conseils, mais en général, c'est une opinion vraiment très personnelle, mais le monde du mieux-être, j'ai pas toujours l'impression que ça aide tant que ça. Il y en a quelques-uns, assurément, qui peuvent donner de bons conseils, mais souvent, les gens qui sont dans le mieux-être, là, ça passe d'un livre à l'autre, avec toujours la solution pour le bonheur, puis après ça, ouais. C'est une autre solution. Si t'avais dans ton livre que t'as lu il y a 5 ans sur le bonheur, ça marchait, ben t'en aurais pas lu d'autres.
Il y a un documentaire très, très intéressant qui s'appelle Bonheur Inc., qui était passé à Télé-Québec il y a quelques années, justement, sur cette industrie du bonheur-là. Je pense que c'est Marc-Claude Élie Morin qui l'avait fait, ce documentaire-là. Très, très intéressant. Justement, interviewait des coachs de vie qui font leur pain puis leur beurre, justement, en donnant des formations, se promenant un peu partout. Puis il y a du monde qui réussit très bien là-dedans. Mais ce que je retenais là-dedans, c'était, la détresse des gens, mais ça crée une certaine dépendance. Tu sais, tu dis, on passe d'un livre à un autre. C'est comme si la quête était jamais finie. Tu as toujours besoin d'un autre séminaire, d'une autre formation, d'un autre produit.
Parce que je comprends qu'il y en a qui ont des traumatismes passés, qui doivent travailler avec des professionnels, puis je nie pas ça du tout.
Les professionnels, c'est le mot-clé de ta phrase.
Ouais, exact. Mais dans certains cas, on va aller, j'ai l'impression, se poser tellement de questions que tu finis par te créer certains problèmes. On dit, c'est vrai, mon père, en 86, il m'avait dit quelque chose que j'ai peut-être mal interprété, parce que ça m'a joué dans la tête toute ma vie, puis après ça, tu te poses écoute, j'ai eu une belle enfance, j'ai pas à me poser plein de questions.
Des fois, on se pose trop de questions, c'est peut-être
J'ai l'impression que oui.
Oui.
Donc, mais oui, il y a des experts à faire confiance, mais je pense que là, tu as raison, le mot expert est. Parce que là-dedans, on peut tomber dans une table infinie de conseils.
Oui, puis là, on passe sous silence tous les coachs d'investissement, les coachs immobiliers, les coachs de fitness, qui pullulent sur Instagram, puis qui t'écrivent en messagerie privée pour t'offrir toutes sortes de mondes fantastiques à 50$.
C'est comme souvent sur les réseaux sociaux. C'est sûr que tu vois les amis qui mettent beaucoup de quotes là, de
bonheur. Ah oui, les messages inspirants.
Ça, c'est souvent un signe que c'est eux qui ont besoin que tu puisses t'inviter à souper.
Ou ils viennent de divorcer.
Mais souvent là, souvent, je pense qu'ils essaient de se convaincre un peu eux-mêmes de ça.
Oui.
Donc, c'est peut-être un signe de dire, appelez-les. Là. Prenez des nouvelles des gens qui écrivent des quotes inspirantes parce que souvent, c'est qu'ils ont besoin de peut-être d'être écoutés.
Tu sais, des fois, on devrait peut-être davantage investir dans un bon souper avec des amis puis une bouteille de vin que dans un coach de vie.
Miracle.
Je pense que oui.
Absolument. Ou une marche en forêt aussi.
Oui. Tu voulais me parler de ce gros dossier dans The Guardian, des anti-vaccins qui ont toutes sortes de choses à dire lorsqu'ils se ramassent à l'hôpital. Puis on avait vu des anti-vaccins qui disaient vaccinez-moi, puis ils étaient trop tard.
Sur leur lit de mort. C'est un dossier qui est assez. Que j'ai trouvé très intéressant dans The Guardian ce matin. C'est d'ailleurs leur article le plus partagé, le plus lu ce matin sur les. On peut pas toujours dire anti-vaccins. Des fois, il y a certains qui sont tout simplement hésitants, là, qui sont pas fait vacciner parce qu'ils attendent. Bon, l'histoire classique, là, on vaccin, mais on veut attendre de voir. Mais ils ont fait une espèce de résumé de plein d'histoires au Royaume-Uni de gens qui, souvent sur leur lit de mort, là, à bout de souffle, passent à travers tous les regrets, disant, OK, ben, ma famille, moi, j'ai 42 ans, je suis en forme, je pensais que le vaccin, c'était pas pour moi, que c'était un vaccin expérimental et compagnie. Puis là, je me rends compte que je verrai plus ma famille, je verrai plus mes enfants, je suis intubé, puis je sortirai jamais d'ici. Et les histoires sont assez intenses. Il y en a certaines qui ont été médiatisées au Royaume-Uni. Je sais pas si tu connais le groupe Capella.
Non, pas
moi,
du
je
tout.
Le connaissais pas, mais Marcus Birch, le chanteur, est décédé. Lui, c'était pas un grand anti-vaccin, mais quelqu'un qui dit bon, moi, on me dira pas quoi faire, puis je suis en santé et compagnie. Sur son lit d'hôpital, il a fait une entrevue à la BBC. Tout essoufflé là en disant aux gens qui avaient été bernés par ces histoires-là anti-vaccins, que les gens devaient aller se faire vacciner et que s'ils sortaient de l'hôpital, ça allait être son message à qui veut bien l'entendre d'aller se faire vacciner. Malheureusement, il a jamais eu le temps de faire ça parce qu'il est effectivement décédé dans le milieu hospitalier. Et une des histoires qui m'a le plus frappé, c'est une histoire qu'on connaît déjà, celle de Phil Valentine, un animateur de droite aux États-Unis qui était vraiment lui anti-vaccin, mais c'est qu'il y a eu certains détails qui ont suivi le décès de ce médecin, cet animateur-là. Oui. Entre autres, des gens qui sont morts. Dans l'article, il y a une fille qui parle de son père, qui lui est un camionneur, et lui faisait juste écouter Phil Valentine dans son camion. Il est devenu, justement, anti-vaccin à force de l'écouter, en disant « Ah ben non, il a bien raison, ça n'a pas de bon sens, et compagnie. » Et là, lui-même est décédé maintenant de la COVID. Et le frère à Phil Valentine, qui a eu d'ailleurs le mandat de son frère avant de mourir, d'essayer de réparer les pots cassés, de faire un discours pro-vaccin maintenant. Donc, j'essaie un peu de sauver les meubles de ce que mon frère a fait. Et il y a une phrase qui m'a quand même frappé dans l'article. C'est, on dit « il est mort ». Je vais vous le traduire, là. Phil a passé ses derniers jours consumé par la terreur des dommages qu'il a causés et qu'il ne pourra jamais effacer. Il est mort plein de regrets. He got it wrong. Là. Il a pris ça dans le mauvais sens. Mm. Et il aurait dû se faire vacciner. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de limiter les dommages. C'est son frère maintenant qui est en mission pro-vaccin pour essayer d'effacer un peu les erreurs de son frère.
Ça m'amène à me poser des questions. Là, tu donnes cet exemple de Phil Valentine. C'était pour il y a des gens qui sont décédés de la désinformation puis de la propagande qui était faite par cet homme-là. T'sais, ici, on a des exemples très, très concrets, là, que ce soit des animateurs, des personnalités publiques, des politiciens qui ont des discours anti-vax. T'sais, est-ce qu'à un moment donné, puis t'sais, je spécule, mais ça nous amène à nous poser des questions, c'est-à-dire des gens qui décéderaient d'avoir été endoctrinés par ce monde-là, est-ce qu'il y a des accusations qui pourraient être portées plus tard? T'sais, je veux dire, parce qu'à un moment donné, si tes paroles ont cet impact-là qu'il y a des gens qui meurent, est-ce que t'es responsable?
Si tu dis volontairement des faussetés pour faire jaser, par exemple, ce que certains font probablement. C'est une très bonne question.
C'est une responsabilité, là. Elle est grande, cette responsabilité-là, quand tu t'adresses à un grand nombre de personnes et que ta parole a un pouvoir.
Et un des éléments moi, que j'avais pas entendu nécessairement, qui est dans l'article d'experts en neurosciences, là, à l'University College de Londres, qui disent que certaines personnes l'ont un peu plus que d'autres, le biais positif. C'est-à-dire qu'admettons, tu dis à une femme, l'exemple qu'il donne, c'est une femme de 60 ans, qui se fait dire « Ah, mais les femmes ont moins de chances de mourir de la COVID que les hommes. » Mais là, j'ai moins de chances. Ouais. Et si tu leur dis « Ah, mais les 60 ans et plus sont plus à risque », ben tu vas avoir, ton cerveau va avoir uniquement retenir les données qui sont plus positives, donc plus positives, comme dans ce cas-là, je suis une femme, donc j'ai moins de chance, mais pas l'âge. Et qu'au fil de ça, à chaque fois que tu vois un élément qui est plus positif ou que quelqu'un, même une mauvaise parution scientifique, une étude bidon,
l'exemple parfait, Vincent,
ce que tu veux, tu vas retenir ça toujours plus que ce qui fait pas ton affaire.
Pourquoi les jeunes se faisaient moins vacciner à une certaine époque? L'hypothèse a été émise selon laquelle c'est parce qu'on a tellement vendu la COVID comme étant une maladie dure au départ, qu'on se sentait un peu invincible.
Que ça reste collé. Et ça, on dit, à la base, le biais optimiste, là, c'est le cerveau qui se protège. C'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps en train de dire « Je vais mourir », puis il va arriver que...
Sauf quand t'es moi, puis t'es hypochondriaque.
Mais on va plutôt penser à dire « on va aller en voyage, c'est pour nous protéger un peu des horreurs de la vie. » là. Mais pour certains, c'est comme un peu trop fort. Et on va juste prendre les éléments positifs et éviter de voir la réalité en face. Donc, c'est un dossier très, très...
Mais touchant.
Très touchant, parce qu'il y a des histoires de familles qui s'accumulent, et dans certains cas, On les voit pas beaucoup, ces histoires-là, parce que les familles d'anti-vaccins vivent souvent leur deuil en privé.
Mais je comprends.
Parce que souvent, quand les familles vont écrire des messages sur les réseaux sociaux, ben, tu le sais à quel point
ils se font ramasser,
de tous les... ils se font ramasser, plusieurs qui dansent sur leur tombe, qui disent bon, sélection naturelle.
Ça, c'est inacceptable. Les gens qui ont été endoctrinés, qui ont pensé bien faire, ils sont convaincus, ces gens-là. Tu leur parles, Vincent, là. Écoute, ils ont coupé les ponts avec leur famille, avec leurs amis. Ils sont prêts à aller au bat pour défendre ce en quoi ils croient. Donc, ils sont pas morts pour niaiser.
Le deuil est réel des familles aussi. Il y en a plusieurs. Je disais, quelqu'un qui était dans cette situation-là, puis qui disait, je sais pas si son père, mon père a payé le prix là, de son erreur. Là. Il est mort. Là. Alors, pouvez-vous le laisser tranquille? Et ça, c'est vrai.
Mais
il faudra
raison.
Quand même faire preuve de compassion, surtout que c'est pas les membres de la famille nécessairement qui sont derrière ça.
Sauf pour les personnalités publiques. Puis, tu sais, le Phil Valentine, là, le diffuseur où il diffusait ces propos-là, est-ce qu'il pourrait être tenu responsable? Je veux dire, à un moment donné, comme diffuseur, tu as une responsabilité de ce que tu mets en onde. En tout cas, ça, c'est Mike Two Cents.
Oui. Alors, vous pouvez aller lire ça sur The Guardian.
Attends, une petite minute, parce que je veux absolument qu'on en parle du livre, Vincent. Hey. Quelques jours après l'assaut du Capitole, ce livre-là qui sort, là, qui raconte ces journées-là.
C'est Bob Woodward, légende, évidemment, du journalisme aux États-Unis, qui sort le livre Peril. Et je lisais, là, écoute, c'est un film d'action. Les jours qui ont suivi l'assaut du Capitole, ce qu'on raconte, c'est, entre autres, l'histoire de Mark Milley, un général les plus hauts placés au Pentagone aux États-Unis, qui lui, c'était déjà pas un fan de Trump, on peut comprendre, là. Lui a capoté en voyant l'assaut du Capitole, et son objectif a été de protéger les États-Unis d'un président qui devient fou, là. Et entre autres, le 8 janvier dernier, donc deux jours après l'assaut du Capitole, il s'est organisé pour limiter les pouvoirs de Donald Trump, pour éviter, entre autres, qu'il déclenche carrément une guerre nucléaire dans sa folie, ou qui carrément est encore plus bon, et dans des attaques de d'autres pays. Ce qu'il a fait, entre autres, puis un bout qui est assez fascinant. Le 8, il est allé au National Military Command Center, qui est un peu le war room là, du Pentagone, là où on va diriger les guerres et compagnie. Et il est allé voir les membres qui étaient là pour dire, peu importe ce qu'on va vous dire, dans toutes les procédures, je dois en faire partie, là. Que je dois être impliqué dans toutes les décisions, peu importe ça vient de où dans la chaîne de commandement. Et on dit qu'il est allé voir chacun des officiers dans les yeux pour lui faire verbalement confirmer qu'ils avaient compris. Et là, il dit « got it ». Et là, on lui disait tout « yes, sir ». Et là, il est allé voir chaque membre pour dire « vous comprenez, là ». Tout passe par moi. Maintenant, tout doit être vérifié, parce que lui, il considérait que le président était en train de virer fou. D'ailleurs, ils ont eu le texte d'un appel entre Nancy Pelosi le 6 janvier, au moment de l'assaut du Capitole. Nancy Pelosi, évidemment une démocrate, la démocrate numéro un à ce moment-là, qui l'a appelé le général pour dire... est-ce que notre arsenal, est-ce que tout est correct? On savait plus où ça allait, là. On était en train de perdre le Capitole. Et alors que le général essayait de la rassurer, elle a dit, vous savez qu'il est fou, là. Dit, you know he's crazy. He's been crazy for a long time. Et le général, quand même, de l'armée, qui dit, madame, je suis d'accord avec vous sur tous les plans là, là-dessus. De sorte qu'on apprend aussi qu'il y a eu des appels entre les États-Unis et la Chine pour rassurer la Chine sur le fait que les États-Unis n'étaient pas en train de tomber carrément aux mains d'un président devenu fou. Alors, plusieurs appels par des back channels, donc des grands généraux militaires auprès de la Chine pour les rassurer. Donc, c'est un livre là, qui est, à mon avis,
Un épisode de scandale, ça s'est passé pour vrai
cette année.
Oui.
Donc vraiment fou à lire. J'ai bien hâte de voir ça, le livre Peril de Bob Woodward. Ça fait beaucoup jaser. Rien qui nous surprend là-dedans, mais c'est intéressant de voir que certaines personnes haut placées trouvaient ça aussi fou que nous, là, ce qui se passait là-bas, et ont essayé de limiter un peu les pouvoirs de Donald Trump dans toute la crise.
Très très hâte de lire ça, moi aussi. Merci, Vincent.
Merci.